Rencontre avec un élu, une émission présentée par Antoine Armstrong, directeur adjoint de Compublic, agence de communication institutionnelle.
Bonjour à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui. Nous accueillons Jean-Baptiste Blanc, sénateur du Vaucluse. Bonjour.
Bonjour.
Alors, monsieur le sénateur, vous avez notamment rédigé en décembre dernier une proposition de loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de zéro artificialisation nette, le fameux ZAN, au cœur des territoires. Alors, cette proposition de loi se décompose en 13 articles qui visaient, puisqu'elle a été adoptée au Sénat, à améliorer la mise en place de l'objectif ZAN, notamment lié à la loi climat et résilience de 2021, pour soutenir en particulier les élus locaux dans cette démarche. Comment est-ce que finalement cette proposition de loi se met en œuvre au service des élus? Et est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu les axes majeurs de cette proposition de loi que vous avez portée?
Oui, bien sûr. Alors, c'est une proposition de loi que j'ai rédigée avec Valérie Létard, qui était présidente de la commission. J'en étais le rapporteur. Et c'est une proposition de loi qui a été partagée par l'ensemble des groupes politiques du Sénat, portée par l'ensemble des commissions. C'est pour vous dire que c'est une affaire qui a été prise très au sérieux au Sénat.
Et partagée par l'ensemble des acteurs.
Exactement. Qui est donc ce sujet du ZAN. Alors, j'en étais déjà le rapporteur au moment de la loi climat et résilience. Ce à quoi nous sommes opposés, ce n'est pas du tout la loi climat et résilience. On ne s'est pas opposé aussi au ZAN. On s'est opposé à la méthode qui a été proposée alors, c'est-à-dire une méthode descendante de l'État qui s'appuie sur des régions et des schémas de plus en plus normatifs que sont les SRADET. Nous avons fait voter à l'époque la territorialisation de l'objectif du ZAN pour proposer une méthode plus ascendante pour permettre aux élus de proposer leur propre trajectoire, puisqu'aucun territoire ne ressemble à un autre, et ce, à partir de leur SCOT. C'est un petit peu technique, mais c'est pour dire que c'est les territoires qui devaient faire remonter aux régions et à l'État leur proposition de trajectoire du ZAN. C'était une approche complètement différente. Il se trouve que les préfets devaient accompagner les élus locaux à définir leur propre trajectoire et leur propre stratégie territoriale, que nulle part ils ne l'ont fait. Ils ne l'ont pas fait, que souvent ils ne le voulaient pas, et ils ne l'ont pas fait souvent aussi parce qu'ils ne le pouvaient pas, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'ingénierie prête pour se faire. Et donc, pour avoir fait un tour de France sur le sujet, j'ai fait une cinquantaine de déplacements. Les élus m'ont tous dit, partout, qu'ils avaient besoin de plus de temps, ils avaient besoin d'ingénierie, ils avaient besoin d'accompagnement, ils avaient besoin de souplesse, ils avaient besoin de garde-fous pour qu'ils puissent réussir à atteindre cet objectif du ZAN. Les élus ont très bien compris qu'ils étaient les chefs de file pour porter la transition écologique, sauf qu'il faut leur donner du temps et des moyens, et qu'il ne faut pas leur imposer ça de manière très normée à partir de l'État et des régions. C'est pour ça que la mission s'est mise en place, celle qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire interpartisane, transpartisane. Et c'est pour ça que nous avons déposé cette proposition de loi qui a été votée. Et cette proposition de loi, elle demande à ce qu'on ait un peu plus de temps pour discuter de fait des propositions faites par les territoires. C'est-à-dire que normalement, la discussion est close depuis le 22 février dernier et les SRADET et les schémas régionaux sont mis en révision dans la foulée. Ça n'est pas concevable, pas acceptable.
Vous demandez à proroger les délais de réflexion
On demande un an de plus de discussion entre les régions et les territoires. On demande aussi à ce que ces schémas régionaux, dont on parlait à l'instant, soient des schémas d'orientation, de stratégie, d'objectifs, et non pas des documents de planification. C'est-à-dire que nous ne souhaitons pas, au Sénat, que les régions portent, dans un avenir proche, l'urbanisme, le logement... C'est-à-dire que les SRADET soient un super SCOT régional. Cela voudrait dire que cela remettrait en cause tout le travail fait par les élus locaux depuis des années, de passage de postes en PLU, PLUI, SCOT, au gré des lois Grenelle, Allure, Élan, tout ce que les élus font depuis toujours, sans compter que les élus sont dans un effort de sobriété foncière depuis fort longtemps. Bah, tout cela aurait été remis en cause. Donc, nous demandons à ce que les régions restent dans un rôle de stratégie et non pas dans un rôle de planification.
Donc, finalement,
on demande aussi.
Allez-y.
Pardon. Non, mais on demande aussi à ce que ce qui avait été voté soit respecté. Parce qu'on a eu à faire face à ce problème très sensible, qui est que ce qu'on a voté n'a pas été respecté par le pouvoir réglementaire, en clair le gouvernement, qui a, après la loi climat et résilience, édicté des décrets qui sont revenus sur ceux que nous avions votés, revenus sur la territorialisation, revenus sur les efforts déjà réalisés par les collectivités, et revenus sur le fait que les grands projets d'intérêt national devaient sortir de l'enveloppe du ZAN. Et ça, pour nous, ça n'est pas acceptable, puisque sur 120 000 hectares dont nous disposerions dans les 10 années à venir pour continuer malgré tout à construire, loger notre population, créer de l'emploi, alors certes avec moins et mieux, on l'a tous compris, eh bien 20 000 hectares sur ces 120 000 relèveraient des grands projets. Si on prend l'exemple de la région Hauts-de-France, cela voudrait dire que si on ne sort pas de l'enveloppe du ZAN, le canal Seine-Nord, les gigafactories, ainsi que les parkings du Brexit, eh bien, les territoires des Hauts-de-France n'auraient quasiment plus aucun hectare à leur disposition pour continuer à se développer.
Oui, avec
Ça n'est pas
quelques grands
acceptable pour
projets
nous.
structurants du territoire, finalement, ça utiliserait l'ensemble de l'enveloppe qui serait à la disposition des collectivités. On va y venir justement, puisque
Exactement.
vous évoquiez le fait de ne pas être opposé à la mesure, finalement, de limitation du foncier, mais plutôt sur la méthode. Et vous mettez plutôt en avant une méthode ascendant qui partirait des SCOT et non l'inverse. Donc, on a bien compris votre position, eu égard aux 50 déplacements que vous avez fait dans les territoires dans le cadre de votre mission et les besoins que les solutions viennent des territoires. On a parlé de ces fameux grands projets qui se développeraient, mais il y a aussi le sujet du logement. Finalement, on sait que de plus en plus de Français ont besoin d'être logés, que ces sujets de foncier posent les enjeux de la construction de nouveaux logements. Comment est-ce que finalement, avec cette loi qui va diminuer par deux la consommation d'espace dans les 10 années à venir, on fait pour aider les maires et on sait qu'une espèce en voie de disparition, que sont les maires bâtisseurs, ont forcément peut-être moins de moyens qu'avant. Est-ce que cet objectif va mettre fin aux maires bâtisseurs ou on va réussir à trouver des solutions alternatives comme la surélévation, le micro-foncier à développer? Qu'en est-il?
On dirait bien que le maire bâtisseur, c'est fini dans ce pays. C'est pas comme ça qu'on se fait élire et réélire. Donc cette époque-là est révolue. Il y a même des maires qui renoncent, qui stoppent des projets. Et c'est sur ça qu'ils espèrent se faire réélire. Il y a peut-être un juste milieu à tout ça, parce
Oui.
qu'effectivement, comme vous l'avez dit, notre population attend d'être logée et les besoins sont cruciaux. On voit bien les chiffres ces derniers temps qui sont publiés, qui sont très inquiétants. Il n'y a jamais aussi peu eu de permis de construire. Il n'y a jamais autant eu de demandes de logements. Plus de 400 000 par an, moins de 100 000 logements par an en réalité sont réalisés. C'est dramatique. En fait, il faut trouver et pour trouver un juste milieu, d'autant plus que la crise du Covid a accéléré le départ de bon nombre de nos concitoyens et l'arrivée de néo-ruraux dans les territoires qui sont souvent équipés de très haut débit. Et c'est une chance pour nos petites villes, pour nos villages, que d'accueillir des nouveaux ruraux, ce qui va permettre de sauver une école, maintenir un commerce de proximité. Voilà. Et c'est pour ça que nous cherchons un chemin, un juste milieu qui permettrait de concilier le ZAN et de continuer à loger sa population et à accueillir certaines entreprises tout en étant beaucoup plus vertueux, nous l'avons compris. Alors, qu'est-ce que nous proposons dans cette PPL pour poursuivre aussi notre raisonnement? Nous proposons déjà que l'État ne soit pas seul à définir le ZAN, ses grands projets, les projets d'intérêt régional et la gouvernance du ZAN en mettant autour de la table les élus locaux. Parce que nous disons que les élus locaux sont ceux qui savent ce qu'il faudra faire pour porter cette transition écologique et mettre en œuvre le zéro artificialisation nette. Et puis, notre mesure phare, c'est une garantie rurale où nous demandons à ce que 1 hectare soit réservé par commune française pour continuer à se développer. Alors, entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'un hectare qui sortirait du ZAN, il ne s'agit pas d'une dérogation au ZAN, pas du tout. Ça resterait dans l'enveloppe du ZAN pour les toutes petites communes qui se sentent exclues du ZAN, exclues de ce débat qui est très métropolitain, avec des régions
C'est
autour,
un peu une forme de
l'État, avec beaucoup
péréquation
d'ingénierie.
à l'échelle des territoires pour le développement des uns et des autres en fonction de la densité des collectivités locales finalement.
Absolument. La péréquation, c'est un mot important. L'aménagement du territoire en est un autre. L'égalité fait partie de notre pacte républicain. Ce n'est pas parce que je suis maire d'une petite commune que je n'ai pas d'ingénierie, que j'ai du mal à me faire entendre dans mon intercommunalité, dans mon SCOT et encore plus de la région, que je n'ai pas le droit d'avoir des mètres carrés pour continuer à loger ma population. C'est pour ces communes-là, on en a dénombré, alors il y a 17 à 20 000 petites communes ou communes denses ou peu denses ou très peu denses dans notre pays, et on a fait des simulations qui montrent que 9 200 pourraient solliciter ce droit à l'hectare. On va l'appeler comme ça, c'est une garantie universelle que nous avons appelée le droit à l'hectare pour continuer à se développer.
Monsieur le sénateur, donc vous avez notamment dans votre rapport d'information déploré l'absence d'un modèle économique pour la mise en œuvre du ZAN. Vous avez notamment examiné les moyens budgétaires et fiscaux qui pourraient être à la disposition de cette politique. Qu'est-ce que vous préconisez? Quels sont les dispositifs possibles pour financer cette mise en œuvre, notamment avec l'exploitation des friches? Comment ça se passe à l'échelle des territoires?
Alors, les friches et leur financement, c'est une première réponse aux ZAN. Le fonds friche est devenu un fonds vert. Le fonds vert a été largement doté de 2 milliards et il va accompagner les collectivités locales, mais c'est de toute évidence insuffisant pour porter le ZAN. Si on veut que le ZAN soit un succès, il va falloir aller bien au-delà. Bien au-delà, c'est permettre aux élus d'être accompagnés sur le sujet foncier. Donc, j'ai entamé là un travail de contrôle, dans le cadre de la commission des finances, contrôle sur les établissements publics fonciers pour savoir s'ils sont suffisamment armés, musclés pour accompagner les élus pour porter un foncier qui sera plus rare et plus cher. Et par ailleurs, j'ai saisi via la commission des finances le Conseil des prélèvements obligatoires qui a rendu un rapport sur le fait de savoir si notre fiscalité locale ne serait pas artificialisante et s'il ne faudrait pas en revoir. Les assiettes. L'assiette de quoi? Des impôts locaux et des taxes locales. Et surtout à un moment où l'autonomie financière des collectivités est mise à mal. En clair, je demande à ce qu'on profite de ce moment assez historique où on demande aux territoires de porter la transition écologique, eh bien, de leur trouver un nouveau financement financier et fiscal dont pourrait et qui pourrait constituer de nouvelles recettes pour les collectivités locales.
Finalement, c'est une
Donc,
réflexion plus
on
globale en se disant il y a cet enjeu du ZAN. Comment est-ce qu'en partant de cet enjeu du ZAN, on arrive à réfléchir aux moyens qu'on alloue aux collectivités pour ce développement de façon globale?
Exactement. Nous sommes à un moment, osons les grands mots, mais je le pense sincèrement, historique. C'est-à-dire où il faut tout réécrire et tout imaginer si on veut que la loi climat soit réellement portée par les territoires. Les territoires, par ailleurs, ne fonctionnent que s'ils ont des ressources propres. Il ne faut pas qu'ils dépendent de l'État plus que de raison, comme nous y assistons malheureusement. Donc, il faut réinventer des impôts locaux qui tiennent compte de ces objectifs. Nous avons saisi la Cour des comptes, je vous disais, sur le fait de savoir si on ne pourrait pas avoir une nouvelle taxe d'aménagement ou des DMTO ou des taxes sur les locaux vacants ou voilà. À impôts, taxes existants, revoir l'assiette, c'est-à-dire le mode de fonctionnement, pour tenir compte de ces nouveaux objectifs et ce qui pourrait être une nouvelle recette pour financer le ZAN. Et financer le ZAN, c'est financer ce moins de foncier, mieux de foncier, et c'est aussi financer la renaturation, parce que c'est ce que nous demandons aux élus, de construire moins et mieux, mais nous leur demandons aussi de rendre des terres à l'agriculture et à la nature, et tout cela nécessairement a un coût important. Nécessairement, construire sur des dents creuses ou sur des sites pollués nécessite, par voie de conséquence, une dépollution surélevée. Tout cela a un coût. Donc, si on veut vraiment parvenir à atteindre ces objectifs, il va falloir s'en donner les moyens.
Et d'où la
Et ça, il va
nécessité
falloir
aussi de
se.
travailler sur le sujet des établissements publics fonciers dont vous parliez tout à l'heure pour anticiper ce travail de planification. Alors, je voudrais compléter un petit peu la question puisque on parlait de fiscalité, mais il y a aussi les enjeux, notamment dans la réflexion que vous avez menée pour soutenir les élus locaux dans la transition. Il y a la nécessité de disposer d'outils, notamment techniques. Est-ce qu'il y a des outils qui existent, des outils nouveaux, ou vous avez aussi mener une réflexion sur le sujet, puisque finalement il y a un peu une remise à plat dans la démarche que vous menez. Comment est-ce que chaque collectivité locale peut être accompagnée? Est-ce qu'elle a les ressources en interne? Comment ça se passe justement pour préparer le développement des territoires de demain?
Alors dans la proposition de loi, nous avons fait voter le sursis à statuer ZAN et le droit de préemption ZAN, notamment. Le sursis à statuer, alors en fait, ce sont des outils pour les élus locaux pour qu'ils ne subissent pas la pression du marché sur les sujets du ZAN. Donc, ils vont pouvoir surseoir à une décision en attendant la modification des documents d'urbanisme. Ils vont pouvoir préempter des friches parce qu'il faut que les élus maîtrisent ces sujets d'intérêt général, non pas à subir précisément la pression de quelques aménageurs que ce soit, même s'il y a des très bons aménageurs. Là n'est pas le sujet. Qu'on a fait voter ces outils-là qui sont à leur disposition. Dans le même temps, on a fait voter un article important sur la nomenclature du ZAN. Parce qu'après tout, on n'a pas de définition encore à ce stade de l'artificialisation. On disait tout à l'heure que les décrets, nous les avons contestés devant le Conseil d'État et que un nouveau décret doit intervenir sur la définition de l'artificialisation. Nous proposons dans cette proposition de loi une définition de l'artificialisation beaucoup plus opérante pour nous, qui donne beaucoup plus de liberté aux élus pour savoir ce qu'ils veulent densifier d'une part, savoir ce qu'ils veulent renaturer d'autre part. En clair, dans une ville où doivent être situés les îlots de fraîcheur, où peuvent être des projets qui peuvent faire l'objet de densification. Donc un article important que nous faisons voter là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette démarche sénatoriale est d'autant plus importante qu'elle a pour but de rendre acceptable l'objectif du ZAN et de la loi climat. Parce que dans le même temps, les choses s'accélèrent dans le sens d'une planification, je vous disais, ça c'est les régions qui la portent, mais s'accélère aussi dans le sens de l'intelligence artificielle qui va arriver pour mesurer l'évolution de l'artificialisation de nos sols. En somme, le CEREMA et l'IGN ont comme mission, peu à peu, avec des moyens qui vont être accordés de plus en plus, de mesurer cette artificialisation. Et puis, à l'échelle européenne aussi, il y a des projets de directives et de règlements, et notamment un règlement de restauration de nos sols, partant du constat que nos sols sont extrêmement dégradés et qu'il va falloir les restaurer, et restaurer par là même la biodiversité avec une trajectoire qui ressemblera à celle du ZAN. Si on empile, compile ces trois objectifs, planification régionale, intelligence artificielle pour contrôler nos sols, une directive et un règlement européen à venir, il ne va pas rester beaucoup de liberté pour nos élus locaux. Alors évidemment, il y a deux écoles qui s'affrontent. Il y a celle qui consiste à dire que on ne peut plus faire confiance aux élus pour porter la transition écologique, il faut planifier et surveiller. Et une école beaucoup plus décentralisatrice, beaucoup plus sénatoriale, disons,
J'allais dire plutôt votre
consiste à dire
position.
qu'il mais oui, qui consiste à dire que pour parvenir à un objectif, il n'y a pas que le bâton, il y a aussi la carotte, c'est-à-dire que on peut faire confiance au territoire. D'autant plus qu'aucun territoire ne ressemble à un autre, qu'on peut quelque part contractualiser et qu'on ne s'inquiète pas, l'État tout au long de cette histoire va contrôler la trajectoire. Donc avec cette méthode beaucoup plus souple, pensons que c'est la meilleure façon d'arriver à l'objectif. Et nous disons que si on veut aussi atteindre cet objectif, il va falloir le financer. Si on veut financer la nouvelle ville et si on veut financer la renaturation, eh bien il faut des outils opérationnels. Les EPF sont une partie de la réponse. Et de nouveaux impôts, mais des impôts existants. Je ne
Non, mais
retirerai pas en créer, il
ça
y
a
en a déjà
effectivement
assez.
le mérite d'être clair et dans la réflexion que vous menez de se dire que finalement sur le sujet tout le monde est d'accord. Est-ce que vous disiez tout à l'heure, il y a un changement de méthode et plutôt une concertation qui est nécessaire. Je retiens qu'il y a plusieurs outils qui sont en cours de réflexion et surtout pour aider les élus des territoires sur sursis à statuer, sur le droit de préempter, la refonte des outils fiscaux qui permettrait également aux collectivités de pouvoir être mieux armées face à l'aménagement de leur territoire eu égard à cet enjeu de ZAN. Et puis je retiendrai ce que vous proposiez avec ce 1 hectare par commune pour continuer à se développer. Merci en tout cas, monsieur le sénateur, d'avoir été avec
Merci.
nous aujourd'hui et de nous avoir expliqué plus en détail les différents éléments que vous avez portés, notamment dans le rapport de la commission spéciale. Et puis dans le cadre de la proposition de loi. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. À très bientôt.
Merci à vous.
Rencontre avec un élu, une émission proposée par Com Public, agence de communication institutionnelle.